C'est une annonce importante qui n'est pas dans le bulletin. C'est pour ça que certaines pouvaient le savoir. Le jeudi saint, ou peut-être, parce que c'est à voir, ou peut-être vendredi, mais gardez ça en tête, jeudi ou vendredi saint, c'est-à-dire 2 ou 3 avril, on va faire une célébration spéciale de louange. Et la particularité de cette célébration, ça va être aussi une occasion, la première partie, ça va être une occasion pour s'enseigner des chants les uns aux autres. Donc, la première partie, apportez vos chants, vos paroles. Si vous avez une bande audio ou vous savez où la trouver sur Internet, apportez cette information. Il va y avoir des musiciens. On va s'enseigner les chants les uns aux autres. Donc, la première, ça va être comme quand il y a un orchestre symphonique qui t'entend juste les... Tout le monde qui se met au même diapason. Et après cette première partie-là, on va prendre ces chants-là et peut-être d'autres, et on va célébrer le Seigneur. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je vais préciser ça d'ici plus tard, parce qu'il faut que je vérifie si la salle est disponible le jeudi saint, le 2 avril, ça sera autour de 19h. Mais si c'est pas disponible et on fait ça le vendredi, là on va choisir dans la journée la meilleure heure, peut-être même en après-midi, parce que en général, tout le monde beaucoup de monde en congé, disons. OK. Avant d'entrer dans mon message, je voulais en profiter juste pour le dire publiquement, peut-être, ou officiellement, que la famille Marino, oui, nous allons retourner en Afrique, nous allons partir en Afrique avec notre travail qui est ACD Carmont. Et cette année, on va partir en fait au Sénégal. Pour les détails, en fait, Héloïse, qui est déjà à Québec, va rester à Québec, ou à moins qu'elle veuille déménager ailleurs, mais elle va rester au Québec, oui, c'est ça, pour finir ses études à l'université. Et donc, c'est Antoine, Marianne, Sophie et moi qui allons partir au Sénégal avec ACD Carmont. Merci. On sait que, en tout cas, on sait qu'il y a toujours des côtés déchirants à cette idée-là, mais pour nous, c'est quand même la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu nous a toujours donné à cœur de pouvoir retourner. Et on s'y est attaché, et c'est ce qui arrive. La particularité, souvent, on va me demander qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Alors, ce serait tentant de dire rien, parce que ce serait le fun, hein, mais ce n'est pas vrai. Notre travail est toujours d'aller vers les plus pauvres, les plus exclus, les plus rejetés. Et donc, une fois là-bas, de travailler à trouver les gens les plus exclus, les plus rejetés, mais pas pour les blâmer ou même l'idée, c'est de pouvoir apprendre d'eux, de découvrir quel est leur savoir, et de leur bâtir leur dignité au travers de leur savoir et leur culture. Et à partir de là, souvent, quand on retrouve notre dignité, on trouve une force intérieure, et de là, va découler peut-être autre chose dans la vie de ces gens-là. Alors, c'est très résumé, ce que j'ai dit, mais je vous en reparlerai davantage, peut-être. Ah, merci beaucoup. Ce matin, je vais commencer par un exercice tout à fait particulier, tout à fait autre. Alors ici, j'ai... est-ce qu'on m'entend derrière quand je parle comme ça? Ici, j'ai un tissu, alors je vais faire quelque chose, on va faire un exercice ensemble. C'est un petit peu comme une couverture, mais c'est une belle œuvre d'art. Alors, il faut que je réussisse rapidement. Je vais le faire. Allez, je bouge. Ah. Alors, voici l'exercice. J'ai besoin de 4 volontaires. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tous le même tissu hein, que j'ai. C'est tous le même. Alors, j'ai besoin de quelqu'un par là pour me dire ce que vous voyez. Alors, est-ce que je choisis un volontaire ou... j'ai une volontaire. Derrière, là-bas, madame, je vois vos lèvres muées.
Dites-moi ce que vous voyez sur le dessus. Ça ne me gêne pas. Il y a comme un palmier là. Parfait. Il y a un oiseau. Merci. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que vous voyez? Attendez, non, c'est vrai. Quelqu'un derrière moi. Est-ce que quelqu'un derrière moi peut dire ce que vous voyez? OK, quelqu'un voit des feuilles de palmier qu'elle croit et un zèbre peut-être. Quelqu'un par ici maintenant? Ça peut être quelqu'un de très proche, c'est vrai. Je veux cet angle-là. Ah, il regarde juste un oiseau. Ah, il y a le derrière de quelque chose, mais c'est pas le mien. J'ai besoin de quelqu'un dans l'autre coin maintenant, s'il vous plaît. Ah, ça peut être proche aussi. Ah, quelqu'un voit le mot Afrique en haut. C'est tout? Il y a de l'herbe. Ah, et quelqu'un... Ah, mais là, c'est pas dans le même angle. C'est dans un autre angle. Quelqu'un voit un bébé et une maman. Tu vois le... Ah! Quelqu'un a remarqué qu'il y a le devant et le derrière, le début et la fin du dessus. Très bien. Alors, on vient de faire un exercice biblique en ce moment. Alors, pour vous le montrer, j'aimerais ça que certains d'entre vous regardiez sous votre chaise. Il n'y en a pas beaucoup, mais certains d'entre vous, sous votre chaise, il y a un coupon collé. Il devrait avoir une couleur dessus. C'est soit par devant, par devant. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé quelque chose? Ah, quelqu'un l'a trouvé pour toi. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez tous regardé la même basique, le même tissu, mais tous, vous ne nous avez pas dit la même chose. C'est vrai?
Oui.
Est-ce que parmi ceux qui ont regardé la basique, est-ce qu'il y en a qui ont menti? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont dit des mensonges que vous avez que c'est pas vrai? Est-ce que quelqu'un derrière, si vous étiez là, est-ce que vous pouviez douter de ce que l'autre derrière voyait?
Ou de l'autre derrière, là.
Mais tout le monde regardait la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand je dis un exercice biblique, c'est que la Bible, elle est constituée de plusieurs livres et est écrite par plusieurs auteurs différents. Alors, si j'aimerais savoir, on va y aller dans le sens d'un cercle. J'aimerais savoir les noms que vous avez, ceux qui ont trouvé. Alors, on va commencer par ici. Ah, ici, Robert a trouvé Habacuc. Et Habacuc, est-ce que quelqu'un connaît? C'est un livre de la Bible. Et donc, c'est un auteur, un prophète qui a écrit un livre de la Bible. D'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre par ici a quelque chose? Ah, ici, j'ai Paul. On connaît l'apôtre Paul qui a aussi écrit des textes. Est-ce que j'ai quelqu'un par ici? Oui? Moïse. Moïse aussi qui a écrit, qui est présenté dans la Bible. Est-ce que j'ai quelqu'un par là? Ah oui? Ésaïe. Qui est aussi un prophète. On connaît le prophète. 66 chapitres. C'est un gros livre d'ailleurs. D'ailleurs, là-bas? Esdras. Est-ce que c'est aussi un auteur de la Bible?
Oui.
Très bien. Est-ce que j'en ai d'autres?
Moi.
Oui.
David.
David. Est-ce que David a écrit dans la Bible?
Oui.
Hein? Et une centaine de psaumes probablement. Ici, j'ai pas un coupon ici? Voilà. C'est moi qui l'ai collé, alors je sais. Non, ah, c'est pas grave. Ah, j'avais des complices. Très bien. Ici, on a Marc. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que chacun de ces auteurs regardait dans la même direction? Ils nous présentaient, ils avaient tous leur regard qui nous présentait sur Dieu. Ils étaient tous en train de nous écrire pour nous parler sur Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un peu exagéré, mon idée? En théorie, s'ils sont dans la Bible, c'est parce qu'ils nous parlaient du Seigneur. Et, et, Et donc, parfois, en fait, je disais c'est un exercice biblique parce que parfois, excusez-moi, je vous tourne le dos, ça ne sera pas très long. Parce que parfois, quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont comme dans des angles différents. On se dit, mais est-ce qu'ils regardent la même personne et ils nous parlent de la même chose? Parfois, quand on les lit, on peut se dire, ah, il me semble que ce n'est pas pareil de un à l'autre, un peu différent. Et d'ailleurs, peut-être avez-vous vos préférés. Peut-être vous avez des auteurs bibliques préférés. Quand on écoute quelqu'un ou on lit quelqu'un, on pourrait dire, ah, ça c'est quelqu'un qui penche plus du côté de Paul, par exemple, ou il penche plus du côté de l'Ancien Testament. On peut sentir les préférences des uns et des autres, parce que peut-être qu'ils sont assis ensemble dans le même coin ou dans un autre coin derrière, puis ils regardent vers Dieu dans la même direction. La même chose, on a eu plusieurs prédicateurs sur la sanctification. C'était différents regards qu'on avait sur le même thème. Peut-être avez-vous des préférés ou non. Peut-être qu'on semblait les différents prédicateurs se contredire parfois. Mais la particularité, en fait, que moi qui m'émerveille dans la Bible, c'est que Dieu est infini, Dieu est éternel. Donc, est-ce qu'on pourrait être tous du même côté pour regarder Dieu juste d'une façon? Difficilement. Pour moi même, en fait, c'est un argument d'apologétique pour valoriser la Bible, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que la Bible nous présente Dieu de plein d'angles différents, de plein de perspectives différentes, ce qui fait qu'on y trouve même un caractère humain. C'est-à-dire on est tellement petit, nous, en tant qu'hommes, que c'est difficile d'embrasser Dieu comme ma toile ici, ma bassine qui était autour de moi. Quand on est d'un angle, on ne peut pas voir toute sa beauté. Alors, juste pour parce que tout le monde est sous le mystère, il se demande, voilà, c'est ça que vous avez regardé. Donc, je reviens à cette image de la Bible, où ce que chaque auteur nous regarde tous dans la même direction et nous exprime tous leur expérience de Dieu, leur révélation de Dieu. Et leur révélation, elle est toute, en fait, conditionnée par différentes circonstances, peut-être. Il y a des auteurs qui nous écrivent quand leur peuple est en exil. Ils sont en pleine défaite. Vous allez lire le prophète Jérémie. Vous allez sentir, ouf, il me semble que ça va mal. De l'autre côté, vous allez lire d'autres moments où le peuple est en victoire. Et là, vous avez une autre révélation de qui est Dieu dans ces textes-là. Et en fait, quand je dis que c'est un argument aussi d'apologétique, c'est pour moi, ça fait partie de la richesse de dire que Dieu est infini. J'ai besoin de plusieurs regards pour découvrir qui est Dieu. Si quelqu'un me présente une religion avec puis qui me dit, dans notre livre, c'est une personne qui a eu toute la révélation puis qui nous donne sa révélation et c'est la bonne, c'est la seule, pour moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Je me dis, qu'il y ait une seule révélation d'un Dieu infini, d'un Dieu éternel, il me semble que c'est difficile de me convaincre que ce Dieu-là, il est infini. Parce que s'il est seulement dans un angle, on vient de le mettre dans une boîte, ou on vient d'essayer de le limiter. Mais la Bible, quand on la découvre, juste, il arrive que oui, parfois, on lit des textes et on se dit, ah, il me semble que l'autre avait dit le contraire, ou bien finalement, j'aime pas trop son ton, hein, tel auteur, il est sévère. Quand je lis, j'aime pas trop ça. Ça me fait peur. Puis là, on va préférer d'autres auteurs. Puis là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je me dis, ah, mais tu sais, c'est pas correct que je pense ça de tel auteur biblique, tel livre biblique, parce que c'est dans la Bible, tu sais, il faudrait quand même que je lise. Alors, des fois, j'essaie de m'attacher à ma chaise pour lire le texte, même si c'est long et ennuyeux d'autres fois. Puis quand je finis, des fois, j'ai la même impression, je dis, bon, finalement, je ne reviendrai pas, je l'ai réussi, je l'ai lu une fois. Ça peut arriver. Mais tout ça pour pour dire que ça donne un caractère à la Bible, je dirais, humain, en fait. C'est comme si c'est un des aspects de la parole de Dieu qui s'est faite humaine. Donc, oui, elle nous parle, et parfois, elle s'argumente, elle se contredit presque. Hein? Des fois, on a cette impression-là, elle ne se contredit pas, mais j'ai déjà dit une fois, je crois que si on prenait tous les auteurs de la Bible, qui doivent avoir une bonne quarantaine, je crois que si on les amène tous dans la même pièce ici, ils vont chicaner. Ils vont chicaner parce qu'on dit, mais non, Dieu, il est comme ça. Parce que cette personne-là l'a vécu comme ça. Dieu l'a inspiré pour nous livrer son témoignage. Mais de l'autre côté, on va avoir un autre auteur qui va nous révéler partager sa révélation que Dieu lui a inspirée. Et c'était dans son angle, et c'est tout autant vrai. Ça fait partie de l'immensité de Dieu qui nous révèle. Mais si on met les deux ensemble, tout comme si on se met à discuter ensemble, peut-être qu'on ne sera pas d'accord tous de la même manière sur tous les mêmes sujets. C'est-tu possible? Oui? Mais peut-être que je vais me dire, non, nous, on n'a pas cette expérience-là, tout le monde est toujours heureux, tout le monde est toujours d'accord, content. Ce serait particulier quand même. Ce matin, en fait, je fais cette introduction-là un peu longue, pour nous amener en fait à considérer un texte et un regard de Dieu le Père, sur Dieu. J'aimerais ça qu'ensemble, on considère qui est Dieu dans l'angle d'une personne qui nous est parlé dans les Écritures. Dans cette perspective, donc on a vu qu'il y a plus, tu sais, les livres de la Bible nous révèlent Dieu dans plusieurs angles différents. C'est comme si Dieu était au centre et il y a plusieurs angles différents. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on en privilégie un regard en particulier, mais qui n'est même pas un livre de la Bible. Et là, ça vous mystifie peut-être, hein? J'aimerais ça qu'on prenne le regard de Jésus-Christ. Alors, on va prendre un texte que Jésus dit, puis on va regarder qu'est-ce que Jésus nous dit sur Dieu le Père. Pourquoi on ferait ça, d'abord? On va dire, bien, parce qu'on est chrétien. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais, entre autres, une des raisons pour laquelle on va le faire ça, je vais lire quelques versets. On va se promener juste en rafale rapidement, mais pour nous dire que dans Jean, au chapitre 1, on va lire Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est au sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est une parole forte. Je viens de prendre le temps de vous dire que si Dieu est au centre et chaque livre de la Bible nous parle de Dieu, Jean y arrive puis encore plus fort puis il dit, en passant, personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui nous fait connaître Dieu vraiment, c'est Jésus. Donc, c'est une petite raison pour laquelle on va aller découvrir le regard de Jésus sur Dieu le Père. Une autre raison, un autre texte, c'est dans Colossiens 1:16. C'est un Colossiens 1:15 qui nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Que si on regarde Jésus, c'est l'image. C'est lui qui nous rend visible, Dieu le Père, au travers de Jésus. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on privilégie un texte de l'Évangile ce matin, un texte que Jésus a prononcé, parce que Jésus, c'est lui qui nous rend visible, Dieu le Père. Et je vais tourner un autre verset dans Matthieu 11, encore juste pour montrer le rôle particulier de Jésus. On va lire 25 à 27. Alors, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé, ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, ici, Jésus nous répète encore que c'est lui qui connaît le Père, que le Père le connaît, et que ceux à qui Jésus révèle le Père, on peut découvrir aussi qui est Dieu le Père. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait dire, ben finalement, on jette la Bible, pas besoin de la Bible, on prend juste les paroles de Jésus? Non. D'accord, je dis tout de suite non. Mais la merveille des premiers disciples, en fait, c'est quand ils ont rencontré Jésus, c'est là qu'ils se sont mis à relire les Écritures sous le regard de Jésus. Ils se sont mis à relire l'Ancien Testament sous le regard de Jésus, puis de réaliser, ah, mais c'était ça qui nous était montré, finalement, dans l'Ancien Testament. Ah, mais c'était tel, il était comme ça, Dieu, dans l'Ancien Testament. Et ça les a permis de se convertir, de changer leur idée sur qui est Dieu. Par exemple, vous avez Habacuc, dans le chapitre 2, verset 4, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Si vraiment vous prenez le temps de le lire et vous ne connaissez pas Jésus, vous allez lire et vous allez dire, vous allez comprendre quelque chose. Mais Paul, lui, a relu Habacuc 2.4 sous le regard de Jésus et il en a vu quelque chose de plus riche encore, qui était que ce n'est pas par la loi qu'on est justifié, c'est par la foi, parce que le juste vivra par la foi. Paul, transformé par le regard de Jésus, par sa rencontre avec Jésus, lit le verset d'Habacuc avec une nouvelle richesse. Est-ce que ça l'a flyé, ce que je dis là? Je vous ai piégé, hein? C'est des versets bibliques, où c'est dur de me dire non. Hein? Mais... Pour voir un verset qui nous parle de qui est Dieu le Père dans le regard de Jésus, on aurait pu prendre le verset 25 ici, parce que Jésus nous parle de Dieu, Dieu le Père. Si vous vous ennuyez pendant que je parle, regardez-le, nous on va tourner dans un autre verset. On va tourner dans Matthieu au chapitre 5. Vous comprenez que j'ai pas le temps de... On n'a pas le temps ensemble de fouiller chaque verset que Jésus parle du Père. En même temps, c'est encore plus complexe parce que Jésus, il dit que... en fait, l'apôtre Paul nous a dit qu'il est l'image du Père. Donc, quand on regarde Jésus, quand on lit l'attitude de Jésus, on découvre l'attitude de Dieu le Père aussi. Donc, on pourrait pas seulement s'arrêter aux paroles de Jésus, mais aller plus loin. Et parce que Jésus dit aussi dans l'Évangile de Jean, ce que le Père fait, je le fais, ce que le Père me dit, je le dis, et ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Donc, ce n'est pas seulement dans les mots de Jésus qu'on découvre Dieu le Père, mais c'est aussi dans le comportement de Jésus. Si on vous pose la question, pourquoi il y a 4 évangiles, personnellement, ça fait partie encore de la richesse de quand je me tenais au centre. C'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs regards, même sur la personne de Jésus, parce que Jésus est tellement grand, pourrait-on dire, tellement infini, qu'un seul regard ne peut pas embrasser toute la personne de Jésus lui-même. Amen. C'est Matthieu 5, on va lire ensemble, Matthieu 5, versets 43 à 48. Et on va le lire avec cette idée, ça dit beaucoup de choses, d'accord? Beaucoup de choses sur lesquelles on a peut-être déjà réfléchi, mais gardons cette idée en tête. Qu'est-ce que Jésus nous dit de Dieu le Père? Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je nous laisse 30 secondes de réflexion. Tu peux attendre 30 secondes, ça là? Ou t'as-tu une question de compréhension, pardon?
Oui.
Ah, péager, oui, c'est un... Moi, dans ma version péager, c'est un publicain, quelqu'un qui récolte les taxes. Quelqu'un qui récolte les impôts. Oui. Alors, je donne 30 secondes et scrutez ce texte. Juste en vous disant, qu'est-ce que Jésus nous dit sur Dieu le Père? Est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait oser risquer de dire qu'est-ce qu'il voit ressortir de ce que Jésus dit sur Dieu le Père dans cet extrait-là?
Dieu est amour.
Et si Dieu est amour? Le Père est parfait. Intéressant. Salah?
Il nourrit les biens et les méchants.
Il nourrit ceux qui sont bons et ceux qui sont méchants. Il est généreux. J'ai pas entendu, j'ai entendu une voix par là. Il est juste. Il est juste. Il est juste, c'est-à-dire, je pose l'exemple, est-ce qu'il est juste dans le sens qu'il est... Ah, il est juste parce qu'il donne égal aux bons et aux méchants. Je peux-tu me promener un petit peu là-dessus? Est-ce que c'est juste de donner aux méchants? Ah, intéressant. Ah, c'est intéressant, hein? On voit qu'est-ce que... Moi, je vais vous dire, j'aurais aimé ça que le texte me dise, les méchants, ça va mal dans leur vie, et les bons, ça va bien dans leur vie. Et là, ce que le texte nous dit, c'est il nous dit pas ça. Hein? Il nous exprime une justice de Dieu qui est autre... Qu'est-ce que Daniel aurait souhaité? Alors, tu m'excuses, je vais te tourner tes mots, parce que tu dis, si on veut être comme notre Père, donc je vais juste te tourner pour dire, donc notre Père aime ses ennemis et il espère du bien, hein, on va dire qu'il interpelle, bon, en tout cas, il espère du bien pour ceux qui le maudissent. Est-ce que tu me permets que je dise ça? En fait, je ferme ça parce que je ne veux pas tout de suite le mettre sur nous. Hein? Je veux qu'on regarde qui est Dieu le Père pour l'instant. Oui, Alex?
Il y a des très grandes attentes envers nous.
Que Dieu le Père a des grandes attentes envers nous? Parce que je rappelle, je veux cibler qui est Dieu le Père. Dieu le Père a des grandes attentes.
Quelqu'un qui a des grandes attentes envers nous.
Excellent, merci.
Si vous soyez parfait comme Dieu est parfait. Mm-hmm.
Donc, Dieu a une grande attente pour qu'on soit parfait comme le Père est parfait. Marc, vas-y. Je reviens à Jean après.
Ah oui, alors, verset 45. Alors, vous êtes les fils de votre Père.
Jésus suggère que Dieu, on peut demander, on peut espérer être fils de Dieu, donc que Dieu, dans son caractère, il est un père, et donc il a des enfants, il a des fils et des filles, certainement. Jean, tu avais levé la main.
Contrairement à nous, qui sommes influencés par les gens avec qui on fait affaire, on aime...
Donc, je répète toujours, parce que c'est pour l'enregistrement, justement, mais aussi pour être sûr que ceux derrière entendent, contrairement à nous, on a des préférences, on aime certains et on n'aime pas d'autres, où on change peut-être nos idées sur quelqu'un. Dieu, lui, ne change pas ses idées. Il aime de la même manière. Je le répète bien. Et c'est riche, hein, qu'on découvre le regard de Jésus sur Dieu le Père à travers le texte. Gunnar. Donc, ce qui frappe Gunnar, c'est que Dieu, qui est souligné, qui trouve souligné dans le texte, c'est que Dieu aime des gens qui ne méritent pas d'être aimés. C'est trop dit, faux, c'est bon? Il y a des gens que je n'ai pas entendus. Oui, Arménia. Donc, ce que tu revois dans le texte, c'est que Jésus est venu pour sauver tout le monde, sans exception. Et puisque tu m'as parlé de Jésus, pourrais-tu me parler du Père? Je sais que Jésus est l'image de Dieu le Père, mais je veux faire l'exercice. Qu'on fasse l'exercice de dire... Donc, on peut dire la même chose, que donc Dieu le Père veut sauver tout le monde. Très bien. D'autres gens que je n'ai pas entendus, peut-être... Est-ce que j'ai quelqu'un qui aurait moins que 21 ans, qui aurait lu le texte? Pardon, Liette, tu peux le dire. Liette, tu peux, si tu as une chose à dire, vas-y. Si tu as 22 ans, c'est correct, Liette. Donc, Liette souligne que l'idée que Dieu, lui, ne change pas. Dans la partie du texte, Dieu le Père ne change pas, il reste toujours le même. Très bien. Je refais mon appel pour les 21 ans et moins. Vas-y, ça me fait plaisir. Ça inclut les 19 ans. Que Dieu est amour, en effet. Oui, Jessica. Que ça démontre beaucoup de miséricorde, le fait que Dieu est juste et qu'il veut le salut de plusieurs. Si vous voulez... aller explorer un autre texte qui est parallèle dans Luc, au chapitre 6. Dans le parallèle de Luc, Luc va dire « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Après avoir dit « Aimez vos ennemis. » Et juste pour rebondir sur une parole qui a été dite sur la perfection de Dieu, moi, ce que je peux dire, ce qui m'a frappé, c'est que la perfection de Dieu, elle est sur son côté d'aimer celui qui ses ennemis d'espérer du bien de ceux qui le maudissent. Et c'est ça la perspective de la perfection de Dieu. C'est vrai que c'est très exigeant, comme c'est une grande attente, mais pour moi, ça met ça ailleurs que de dire d'être, par exemple, sans défaut et sans péché. C'est plutôt de dire, ah, si je réussis à aimer mon ennemi avec tous mes défauts, bien, je suis beaucoup plus proche de Dieu, Dieu le Père. Je viens de transférer le verset sur moi. Hein? Merci, je vois que... Alors que je veux qu'on garde le regard sur Dieu le Père, je m'amorce vers une conclusion, parce que vous avez finalement bien fait mon message, merci beaucoup. Je vous laisse en fait l'exercice pour la suite. Je vous encourage à lire les évangiles avec cette recherche du regard de Jésus. Mais ce que j'aimerais porter l'attention, c'est que pour moi, de lire l'évangile de cette manière-là, ça m'a défié. Parce que comme j'ai dit, j'aurais aimé ça, que le texte me dise que les méchants, ça va aller mal pour eux autres. J'aurais aimé ça, que le texte me dise que les bons, c'est sûr que ça va bien dans leur vie. Et parfois, on entend des gens on a ce réflexe-là de dire, quelqu'un a une épreuve, puis on se dit, ah, il y a un problème dans sa vie. Dieu veut lui montrer quelque chose, Dieu veut lui corriger un péché, peut-être. Et c'est notre réflexe. Mais si je pense à Dieu dans le regard de ce texte-là, je suis obligé de me dire, mais s'il fait briller le soleil sur le bon comme le méchant, comment je peux savoir, à partir du fait qu'il pleut sur quelqu'un, ou qui fait soleil, qu'il est béni, que Dieu est d'accord avec lui, que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Ce n'est pas l'outil qui me permet de juger quelqu'un. De la même façon, si je vois quelqu'un qui est riche et prospère, que tout semble aller bien dans sa famille et partout, je ne suis pas capable de dire, ah, ça c'est une personne qui est bénie de Dieu, il faut suivre son exemple. Parce que Dieu, il fait briller son soleil sur l'un et sur l'autre. Donc, comment je peux savoir si, en fait, c'est pas à partir de ce qui se passe dans sa vie, dans les apparences, que je peux juger quelqu'un dans sa relation avec Dieu? Que je peux juger quelqu'un sur son caractère, sur sur sa bonté ou sa méchanceté. Et pour moi, ça me pose un défi personnel parce que ça m'oblige à changer ma pensée. Ça m'oblige à dire, OK, je vais donc moi-même essayer de regarder quelqu'un qui me tape ses nerfs, quelqu'un qui m'énerve, avec le regard de Jésus ou le regard de Dieu le Père. Mais l'autre défi que ça nous pose, peut-être que vous l'avez, vous percevez, c'est de relire aussi l'Ancien Testament à la lumière de ce Dieu le Père que Jésus nous révèle. Comment on peut relire l'Ancien Testament et revoir l'Ancien Testament, parfois, qui peut nous sembler nous dire autre chose. Et de où, finalement, de découvrir que dans l'Ancien Testament, ah, on peut dire peut-être que cet auteur-là, il passait une mauvaise passe. Il y avait une mauvaise passe. Exemple, en fait, on a fait l'exercice dans notre groupe maison vendredi avec ce texte-là. Et juste avant, pour commencer le groupe maison, on a lu un psaume en prière. Et le psaume, c'est le psaume 15. Et je ne vous le lis pas tout de suite, mais ce qui est fascinant, c'est que dans le psaume 15, ça dit, « Ah, celui qui peut se tenir dans le temple de Dieu, c'est celui qui méprise les gens méchants. Et c'est celui qui est bon avec les faibles. » Et donc, le psaume 15 nous dit, « Celui qui se tient dans le temple de Dieu, c'est celui qui méprise les méchants. » Mais ici, Jésus nous dit, Dieu, lui, il aime ses ennemis. Et il fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Par conséquent, je suis obligé de, donc, à la lumière de Jésus, de relire le psaume 15 avec un regard différent, avec un nouveau regard. Je suis désolé, à chaque fois, je sème des semences de questions comme ça, de remises en question, de doutes même, peut-être. Mais pour moi, c'est la merveille de notre Dieu, c'est que justement, il est infini, et on a besoin de tous ces regards-là, mais à commencer par le regard de Jésus sur Dieu le Père, toutefois. Parce que son regard à lui, il transforme notre lecture de l'ensemble de la Bible. Amen? C'est vrai? Vous n'êtes pas obligé de dire Amen, vous n'êtes pas d'accord? Amen? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de dire Amen, vous n'êtes pas d'accord. Amen, que Jésus nous révèle Dieu le Père. J'ai invité l'équipe de louanges pour que, justement, on se tourne vers Dieu le Père, mais celui de notre Seigneur Jésus-Christ, justement. Alors, pendant que l'équipe de louanges se prépare, j'aimerais juste qu'on rentre dans une attitude de prière, d'adoration. Juste aussi, j'aurais besoin de deux parents volontaires pour aller chercher les enfants en bas, pour qu'ils puissent se joindre à nous dans la louange, pour venir adorer Dieu notre Père. Est-ce que j'ai deux parents? J'ai Carole, merci. Oui, Sophie, merci beaucoup. Alors, pour nous autres, il y aura aussi la prière d'intercession derrière, dans l'autre pièce. Et entrons en prière, je vais... Seigneur Jésus, c'est avec humilité que je veux découvrir ton regard sur Dieu le Père. Si en même temps, c'est ton regard, Seigneur, qui m'a attiré à toi, de découvrir Dieu dans tes yeux. Découvrir qui est ce Dieu d'amour. Renouvelle encore, Seigneur Dieu, ma vision du Père. Rafraîchis, Seigneur, mon cœur. Puis transforme-nous par ton Esprit Saint. Pour qu'on soit justement les enfants de notre Père. Les fils et les filles de notre Père. On t'en remercie, Jésus. Et reçois nos louanges maintenant. Reçois notre adoration.
parce que tu en es digne. Amen.
Je vous invite aussi entre les chants. Sentez-vous à l'aise de dire une parole d'adoration des fois. Quand le chant il baisse, élevez la voix. Louez le Seigneur dans vos propres mots, dans vos propres, dans le propre sentiment qui est dans votre cœur. Amen. Thank you.